Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin est médecin, chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis depuis la crise, depuis cette pandémie, c'est sûr que c'est une des figures dominantes qu'on a vues dans les médias pour nous expliquer ce qu'il vivait à l'hôpital, ce que cette crise voulait dire. Docteur François Marquet est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Votre livre, ce sont des carnets de pandémie que vous présentez. Puis je vous posais la question tantôt, ça a été dicté à chaud. Donc, c'est vraiment les impressions des différentes vagues qu'on a connues.
Effectivement, du début à la fin du livre, c'est vraiment que des épisodes qui se suivent. Et le but, c'est vraiment que les gens nous accompagnent, marchent avec nous autres dans nos pas. Et on ne sait pas au début du livre où on s'en va. Et ça, c'est important. Ça n'a pas été écrit en disant, bon, ben c'est un récapitulatif ou un résumé. Non, c'est vraiment à chaud. Et c'était en fait dicté alors que je marchais souvent de l'hôpital vers mon domicile.
On sent dès le début, d'abord, c'est un gros point d'interrogation, c'est-à-dire les premiers cas qu'on a vus en Europe, premier cas qui arrive à l'hôpital, je pense que c'est un négatif finalement oui. En bout de ligne. À quel moment ça s'est accéléré, puis là vous êtes dit, on sait pas où on s'en va avec ça là?
Ben en fait, on savait où on s'en allait, on savait simplement pas l'envergure que ouais. Ça allait avoir. Quand les premiers cas se sont mis à rentrer, ça s'est mis à déferler, là, c'était un après l'autre. Mais il faut comprendre que les premiers cas étaient plus occupants qu'à un moment donné, quand on était rendu meilleur et qu'on était capable de gérer des plus grands nombres. Et ça, c'est un aspect qui est important. Au début, le fameux faux cas qu'on a eu a paralysé l'hôpital complètement parce que tout le monde était tellement sur la défensive et après on a appris à vivre avec la maladie, on a séparé l'hôpital, on avait entendu parler de ça, les hôpitaux dans les hôpitaux. Une fois qu'on a eu trouvé par où on devait les faire circuler pour que tout fonctionne dans l'hôpital, c'était plus facile.
Bon, en lisant votre livre, j'ai pris quelques notes. Il y a quelque chose où j'ai accroché, vous dites à un moment donné, au début, on a divisé les hôpitaux. Alors, l'hôpital général juif et Maisonneuve-Rosemont sont devenus les hôpitaux COVID, où on envoyait les patients. Et là, tu te dis, mais puis on connaît l'état des lieux, là. Pourquoi on a choisi un hôpital vétuste, pas adapté, avec des salles communes, comme hôpital COVID?
En fait, c'est une question que je me pose encore. Et honnêtement, pour être précis, Sacré-Cœur aussi avait été désigné très, très rapidement. Bon, il y a des choses qui ont joué en notre faveur. On était prêts. Dans le sens où on avait fait des modifications et, de façon étonnante, le fait qu'on ait des aires ouvertes, ça permettait de fermer complètement des zones et de les rendre COVID positives. Est-ce qu'il y a des décisions rapides qui ont été prises? Est-ce qu'il y avait un grand schéma? Celle-là, j'aimerais ça me la faire expliquer quand on avait des beaux gros hôpitaux tout neufs avec des chambres d'isolation. Ça nous a tous un peu surpris. Il n'y a pas grand monde à Maisonneuve qui s'attendait d'être désigné en premier comme ça.
Mais l'autre chose qui est mise en lumière aussi, puis on peut inclure les centres de soins de longue durée, c'est pas normal qu'on ait laissé un hôpital comme Maisonneuve, Rosemont, se détériorer avec des promesses reportées d'année en année. Pas beaucoup de gens qui se préoccupaient du manque de personnel dans les centres de soins de longue durée. Il y a tout un pan, là, du côté vétuste du réseau de la santé, qui, jusqu'à cette pandémie, était pas mal sous le radar. Là.
Effectivement, et malheureusement, l'Est de Montréal est souvent une population qui est mal représentée, qui a pas une grosse voix au chapitre, hein, ça n'a pas des immenses industries. En fait, le CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal est le plus gros employeur, ça donne une idée. Là. Je pense que c'est des gens, effectivement, qui ont été délaissés. Et comme il n'y avait pas d'urgence, pourquoi on mettrait de l'argent dans ces infrastructures-là alors qu'on a d'autres projets qui vont amener un meilleur rayonnement? C'est juste que là, ils se sont fait attraper. Là.
Vous êtes devenu une vedette, veux pas, là, durant cette crise, parce que on le voit avec d'autres médecins, Dr. Weiss et plusieurs autres. Là. C'est arrivé comment? Une entrevue, puis les autres se sont enchaînés, puis là, vous étiez comme partout.
C'est exactement ça, mais avec une certaine volonté... J'ai vraiment fait vraiment exprès pour accepter un maximum d'entrevues parce qu'il y avait tellement de désinformations. Il y avait même à l'hôpital, j'entendais tellement de folie. Je me disais, mais il y a comme peu de gens qui disent la vérité. Et je voyais beaucoup de mes collègues qui étaient très, très, très occupés. J'étais très occupé, mais j'ai voulu faire cet effort-là de dire oui parce que je sentais le besoin de, qu'il y ait des voix qui disent un peu là, ce qu'en était de la science puis des mesures à faire et pour un peu expliquer ce qui était annoncé par le gouvernement qui générait souvent beaucoup de questions.
Et là, vous avez réalisé ce que c'est que d'être connu puis de devenir, entre guillemets, une vedette. Là, c'était vrai dans des contacts avec le public qui vous interpellait de façon assez familière, on va dire.
Oui, c'est une réalité. Cela dit, 99,9% des gens sont très gentils, mais c'est vrai que ça surprend toujours un peu parce que ces gens-là, ils pensent qu'on se connaît bien, puis c'est vrai que ça donne cette impression-là, mais des fois, quand t'arrives dans un stationnement, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive sur toi comme une fusée, tu te dis, il vient-tu me frapper, là, lui? Tu sais, il y a cette question-là, mais ça demande une adaptation. On le fait pas pour ça, mais oui, c'est comme un effet.
Mais vous étiez pas quelqu'un, là, un grand consommateur de nouvelles, les téléjournaux, l'actualité.
En fait, j'étais un anti-consommateur.
Un anti-consommateur.
Oui, les bulletins de nouvelles me rendaient... mal à l'aise. J'aimais pas commencer mes journées sur des mauvaises nouvelles sur lesquelles j'avais aucune prise. Hein. On se fait annoncer ce qui se passe dans un autre pays, puis ça fait juste mettre ta journée à l'envers. Alors que là, il s'est passé deux choses. Un, j'étais dans l'action. C'est que c'était pas, pour moi, je faisais partie de la solution. Je faisais pas juste subir la nouvelle. Et aussi, et ça, je l'avoue humblement, je pensais beaucoup que le journalisme, c'était du sensationnalisme, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont le souci du travail bien fait. Et ça a bouleversé ma vision du milieu. Et je pense que c'est en positif. Hein, comme de quoi, à travers toutes nos nouvelles expériences, on peut en sortir des choses très positives.
Mais vous avez vécu quand même des épisodes, et je pense aux réseaux sociaux, là, tous les gens qui se sont exprimés, qui expliquaient finalement ce qu'on vivait, par rapport aux thèses complotistes, puis je me souviens entre autres aussi de la fameuse photo là où on voit que des lits inoccupés, Jeff Fillion à Québec. Bon, comment vous avez vécu là, j'allais dire, de devenir une cible pour bien des gens là, comme faisant partie du vaste complot de l'État contre les citoyens?
Bon, ça fait pas plaisir. Il y a personne qui aime ça. Honnêtement, j'avais deux stratégies. La première, c'était de ne pas être sur les médias sociaux. Donc, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas subi chaque petite attaque un peu vicieuse qui peut arriver comme d'autres collègues. J'ai eu mon lot de problèmes, mais on se dit que ça fait partie des conséquences. Et moi, je le voyais d'une autre façon. Je me disais, plus ils sont agressifs, en réalité, c'est que moins ils ont d'arguments, plus on va les toucher, plus ils se sentent acculés au pied du mur. Sinon, ils m'ignoreraient. Et donc, c'était pour moi un peu un baromètre à quel point là, mes interventions pouvaient être positives pour la population.
C'est pas venu vous perturber, ça vous a pas trop affecté?
Ça m'a pas fait plaisir. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi à venir me chercher, là, mais surtout pas au point de me dire qu'il faut que j'arrête puis qu'on va me taire et qu'on va laisser gagner les trolls. Ça a jamais eu une chance de fonctionner.
C'est intéressant dans le livre parce qu'on voit l'évolution du genre de patients. Bon, les plus âgés, les plus vulnérables. Et là où je pense que vous avez eu un rôle très important à jouer, c'est de dire, bon, OK, là, tout le monde pense que des gens de 85 ans et plus meurent. Il y a d'autres patients plus jeunes qu'on va intuber. Puis intuber quelqu'un, ça a des conséquences, là, pas juste au moment où on le fait, mais sur la reprise d'une certaine normalité. C'était important de le dire que c'était pas juste des gens en fin de vie qui étaient touchés par la COVID.
Effectivement, et aussi qu'il y a des états des fois qui sont pires que le décès. Hein, je pense à beaucoup de personnes qui ont encore un combat très important, qui étaient dans la première vague, qui ont survécu, que leur qualité de vie est rendue misérable. Mais il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont peut-être eu un sort qui est un peu pire des fois que la mort. Là.
Est-ce que, durant cette crise-là, vous avez dû réfléchir à une certaine forme de triage des patients qu'on a vus en Europe. Et je sais qu'il y avait des plans là, qui avaient été faits par le ministère de la Santé, mais est-ce qu'au niveau de l'hôpital, Maisonneuve-Rosemont, vous étiez déjà en train de vous dire, OK, là, s'il nous arrive tant de patients de plus, ça veut dire qu'on va faire certains choix basés sur un certain nombre de critères.
Ce qui est important de savoir, c'est que dès le début, qu'on a commencé à penser intellectuellement à ça, le message était très clair que ça serait quelque chose qui serait coordonné au point de vue provincial. Les hôpitaux avaient clairement des instructions de ne pas essayer d'improviser quelque chose ou de se démarquer en essayant. Donc, pour nous, si on approchait de cette limite-là, on transférait des patients dans les autres hôpitaux et tout était coordonné par le gouvernement. C'est que cette partie-là était absolument pas susceptible d'être improvisée. Aucun hôpital pouvait dire, OK, ben moi, je suis plein, je commence à trier, ce qui est une très, 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 très bonne chose.
Mais c'était quoi le débat éthique? Ça aurait été quoi le débat éthique pour un médecin comme vous?
Ben au début, c'était pas un si gros débat éthique parce que faut se le dire, les gens mouraient, on n'était pas très bon pour les sauver. Là où ça devenait difficile, c'était plus dans la deuxième et la troisième vague où on savait qu'on était capable de les sauver. Le vrai débat éthique, c'était est-ce qu'on allait, par exemple, juste inclure les gens COVID là-dedans ou l'ensemble de la population d'un hôpital? Parce qu'il y a des gens qui ont un cancer très avancé, que finalement, le patient plus jeune COVID aurait une chance. Donc, c'était l'ampleur du triage. Mais le vrai, vrai, vrai problème, et pour moi, c'était la brisure dans la confiance. Quand on va à l'hôpital, c'est pour se faire soigner. Il y a personne qui va à l'hôpital en se disant hey, peut-être qu'ils vont me tirer à la plug quand je vais arriver. Cette confiance-là intrinsèque entre une société et son système de santé, si on allait là-dedans, on la brisait. Et c'est sans compter que faut pas oublier qu'il y a des gens, pour des critères sociaux ou religieux, ont une perception de l'arrêt de traitement qui est fondamentalement différente, du Québécois de souche. Et ça a amené des débats interminables. Il faut pas se le cacher. Il y avait rien là-dedans qui protégeait vraiment les médecins, qui allait prendre les... C'est ça, légalement, c'est un gros problème. Tout le monde disait, oui, il va y avoir quelque chose, on va vous protéger, mais il n'y avait rien sur la table. Contrairement à l'aide médicale à mourir, qui est parfaitement encadrée, et que quand on reste à l'intérieur du cadre, tout va bien aller pour le médecin. Là, on s'enlignait dans quelque chose de très, très flou au niveau de la protection légale.
Notre invité, Dr. François Marquis, donc chef du service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont, le livre, mes carnets de pandémie. Je veux regarder un autre angle. Si vous dites, dans le livre, on a vécu plein de choses, il y a eu de l'improvisation, la santé publique, c'était pas toujours clair, ça aurait mérité peut-être d'être plus précis, mais vous voulez pas qu'on fasse une chasse aux sorcières, mais vous voulez en même temps qu'on retienne des leçons de cette expérience qui va avoir duré quoi, 24 mois minimum, là?
Effectivement. C'est tellement facile, en rétrospective, de commencer à pointer les gens. Habituellement, quand il y a des erreurs, c'est des erreurs de système qui vont se manifester à travers une personne. Retrouvons la cause des erreurs. On en a parlé tout à l'heure, comme le désinvestissement en santé, le manque de personnel, toutes ces choses-là. Et regardons vers le futur et solidifions notre système de santé. On sait par où l'eau est rentrée dans le solage, comme on dit. Bon, ben maintenant, on va aller boucher ces trous-là, on va comprendre ce qui s'est passé et on va se rendre moins vulnérable à une prochaine pandémie ou à un prochain problème là, sociétal. Et ça, je pense que c'est là que l'énergie doit être mise, non pas à commencer à trouver des coupables, parce que ça va être tellement tentant, mais tellement tentant de pointer des gens puis de dire « Ah, c'était leur faute, on s'en lave les mains, on a une coupe de bouc émissaire puis on continue dans nos mauvaises habitudes. »
Mais en même temps, la santé publique, c'était pas toujours clair. Les points de presse, la fameuse grande messe de 13 heures, vous le dites dans le livre, là, on les écoutait puis on se disait « Wow, pas tout à fait ça qui arrive sur le terrain. »
Ben effectivement, coordonner quelque chose d'aussi gros était pas facile. J'aurais vraiment pas aimé être à leur place. C'est certain que en choisissant de faire des communiqués où on allait dans l'ultra détail pour essayer de montrer de la transparence, ça rendait la chose extrêmement difficile à comprendre. Il y a des moments de la grand-messe où la plupart des médecins qu'on écoutait ça, on se disait ouais, c'est un peu compliqué ce qu'ils sont en train d'expliquer là pour le citoyen de base là, qui commence à comprendre l'épidémiologie. Je pense que ça aurait pu être gagnant d'avoir des petites bouchées et de promettre aux gens de leur dire, par exemple, écoutez, on va passer à travers le concept. On va se prendre 3 jours pour comprendre ça parce que, habituellement, c'est un cours d'université. À vouloir être absolument transparent, je pense qu'ils ont noyé beaucoup les gens dans le détail. Et ça, je pense que, justement, cherchons pas le coupable, mais dites-nous que la prochaine fois qu'on va avoir des messages de la santé publique, on va vraiment découper la connaissance pour qu'elle soit facile. La vulgarisation, hein, c'est ça le défi de la vulgarisation. C'est de prendre des gens qui sont pas experts et de leur donner assez de base pour qu'ils puissent commencer à apprendre plus puis à s'approcher de l'expertise. Mais les premières étapes, faut y aller tranquillement. On n'apprend pas à faire de la bicyclette en se lançant dans le Tour de France, là. Ça nous prend des petits trous sur le côté puis on est tous passés par là.
Vous avez eu la COVID?
Ben, en fait, c'est une grande question.
Ben, oui, j'ai vu qu'il y avait des tests contradictoires, là.
Mais officiellement, j'ai eu la COVID et c'est important que ça soit officiellement parce qu'il y a un devoir de sûreté. Il n'était pas question de prendre le risque de dire « Oh non, mais il est probablement safe, on va l'envoyer travailler. » Parce que cette erreur-là aurait pu coûter beaucoup plus cher au système que de dire « Regarde, on n'est pas certain qu'il est positif, on va le sortir par prudence. » Puis il fera beaucoup d'administration, ce qu'il a fait, ça n'a pas été des vacances. Mais ça, c'est la façon de faire. Quand on est en pandémie, on va du côté prudent. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, ils ont peut-être été un peu intenses de me sortir de mon travail. » Tout ça. Non, c'était la bonne chose à faire. On se doit d'avoir un devoir de prudence.
Vous avez vu les patients COVID. Vous avez vu c'était quoi l'impact, la réalité de la COVID. Quand vous voyez des gens qui refusent de se faire vacciner, qui ne veulent rien savoir, et même dans le réseau de la santé, là, votre réaction, c'est quoi?
Ben, ma réaction a beaucoup changé. Au début, c'était genre, bon, ben, ils sont mal informés. Mmh. Ces gens-là, on est allé les chercher, on les a informés. Parce qu'il faut comprendre que la masse d'antivax, c'est beaucoup réduite. Hein? Mais les irréductibles qui restent, pour moi, ça reste du niveau un peu du fanatisme. Je ne suis pas sûr qu'ils sont mobilisables, je ne suis pas sûr qu'ils sont qu'on peut les convaincre. Rendu là, je pense que la bonne décision, c'est d'essayer de protéger le reste de la population puis d'empêcher ces gens-là d'être des vecteurs puis de la contamination.
Mais comme médecin, là, puis je parle souvent à des médecins puis je leur pose la question, là. Vous avez différents types de patients qui sont à l'hôpital pour différentes raisons. Vous voyez arriver quelqu'un là, qui va mobiliser une équipe, un lit, des ressources. C'est quelqu'un qui a refusé la vaccination puis qui est peut-être là à l'hôpital pour 2-3 semaines. Êtes-vous en maudit? Vous n'êtes pas supposé, là.
Non, mais en fait, il y a une façon très, très simple de l'expliquer. Imaginez, là, que vous avez votre voisin, OK? Puis vous vous entendez pas bien avec votre voisin, puis ça fait des années qu'il vous fait du trouble. Puis là, tout d'un coup, il a vraiment besoin d'aide, puis il vient vous dire, ben là, je m'excuse, mais j'ai besoin d'aide. Ton cœur a juste le goût de l'envoyer promener, mais ta tête va dire, sois un bon citoyen, il a vraiment besoin d'aide, va l'aider. C'est cette même dualité-là. Au début de la pandémie, c'était relativement facile parce qu'il n'y avait pas de vaccin, donc tout le monde était un peu une victime. Maintenant, c'est un peu comme quelqu'un qui a décidé de jouer à chicken avec un 10 roues puis qui s'est planté, là. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui arrivent en même temps, ces gens-là. Puis ils viennent quand même en différentes catégories. Il y a des gens qui sont encore dans le déni, là, qui disent que ça n'existe pas, que ça n'existe pas. Dans leur monde, eux autres, dans leur construit, la COVID n'existe pas. Mais il y en a qui disent non, je ne le prendrai pas. J'en ai eu un qui a dit, bon, mais les soins intensifs, c'était pas super. Je suis prêt à revenir. Mais ça, oui, ça vient nous chercher, puis c'est extrêmement difficile.
Comment ça va se passer en Maisonneuve Rosemont, dans votre unité à partir du vendredi? De vendredi, avec l'application du décret, est-ce qu'il va y avoir du délestage, des corridors de service? Avez-vous une idée de ce qui va arriver?
En fait, chez nous, c'est probablement les soins intensifs, on est tous vaccinés.
Ça règle le cas.
C'est que ça règle essentiellement le cas. Il y aura pas d'impact sur notre unité. L'urgence, c'est à peu près la même chose. Les autres, il y a d'autres ailes, il y a d'autres départements où ça va être plus compliqué. Ça va demander de coordonner le réseau, mais encore là, c'est la bonne chose à faire. Il faut rendre le système de santé sécuritaire pour ses usagers. Et au lieu d'avoir des gens qui disparaissent, qui reviennent, qui sont absents, là, on va avoir des absences plus prolongées, mais ça va être des absences qu'on va pouvoir comprendre et faire nos horaires, faire notre délestage, toutes ces choses-là. C'est pas idéal. Je préfère encore que tout le monde soit vacciné. Mais il faut s'adapter et c'est ça l'affaire. Il faut s'adapter.
Docteur Marquis, merci beaucoup d'être venu. Docteur François Marquis, donc, son livre « Mes carnets de pandémie ».
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Qu'est-ce que vous faisiez le soir du 3 juin dernier, M. Larose?
La victime allègue un viol collectif. Comme c'est impossible de corroborer les faits, on serait mieux de classer l'affaire.
C'est pas agressé de ça, là, Kim?
Et on a été créé pour résoudre des cas difficiles. On va se donner une dernière chance.
C'est un extrait de la bande-annonce de cette nouvelle série dramatique qui s'appelle « Doute raisonnable » qui nous montre une escouade, un groupe d'investigation sur les crimes à caractère sexuel. Julie Perrault fait partie de cette escouade, son personnage à tout le moins. Bonjour Julie.
Bonjour.
Si vous aviez à résumer, moi j'ai regardé 5 épisodes, mais pour que les gens comprennent ce qu'ils vont voir, c'est vraiment une escouade dédiée. Là. C'est des policiers, des spécialistes, des intervenants là, qui font des crimes sexuels leur priorité.
C'est une brigade premièrement fictive, ça n'existe pas dans la vie. Donc, c'est leur surspécialité, c'est les crimes à caractère sexuel. Majoritairement composés de femmes, avec le personnage de Marc-André Grondin, pardon, qui se jouait à nous rapidement. On va suivre, en fait, la composition dramatique est faite en 4 temps. C'est-à-dire qu'on suit vraiment 4 histoires. Puis, on va trouver au cœur de cette brigade-là mon personnage, Alice Martin-Sommer, qui est vraiment dédiée corps et âme aux victimes. Elle les croit. Sous aucune considération, elle va baisser les bras. Donc, on va suivre. Puis, ce qui est intéressant dans la série, c'est comme on suit 4 histoires, on a résolution. Le public va avoir une conclusion pour chacune d'elles. Peut-être pas la première, mais on va la retrouver au 10e épisode. Donc, il y a satisfaction au niveau du dénouement.
Mais en même temps, c'est vrai, composé de femmes majoritairement, mais on sent aussi le questionnement. Il y a un premier cas qui est une victime de viol.
Ouais.
Puis là, vous la croyez, votre personnage la croit, mais autour de vous, il y a quand même des gens qui émettent des doutes compte tenu du contexte, compte tenu de la façon dont c'est arrivé.
Les personnages sont confrontés entre eux à plusieurs clichés, à plusieurs facilités aussi. Ce qui est intéressant, puis je suis très heureuse de défendre le personnage parce que ça va dans mes propres valeurs à moi. Je suis pas confrontée à avoir un combat envers moi-même parce que moi, ce que j'ai appris en faisant cette série-là, parce que ça a été très éducatif pour moi, c'est que ces drames-là, ces crimes odieux-là, on a toujours l'impression que ce qu'on cherche, c'est la vérité. Mais la vérité, qu'importe qu'on la trouve, pas tant mieux si elle est énoncée, c'est les preuves qu'on cherche. Puis c'est ce qui est extrêmement difficile, parce que les confrontations au niveau du JIX, de la brigade, viennent aussi du fait qu'on les trouvera pas, les preuves, parce qu'il y a souvent des nœuds, il y a souvent des trous dans les témoignages, non pas parce que c'est des mensonges, mais parce que la mémoire est directement affectée par le temps qui passe, par le traumatisme. Donc, il y a réellement un manque de preuves, souvent. Puis c'est ce qui est intéressant dans mon personnage, c'est qu'elle les croit, puis elle va aller jusqu'au bout, même si on m'ordonne d'arrêter le dossier, tu sais. Puis à travers cette quête-là ultime de vouloir défendre les victimes à tout prix, s'entrechoque un peu son histoire à mon personnage. Puis
oui, parce qu'elle a une histoire personnelle qu'on découvre et une vie secrète en parallèle, puis aussi un drame personnel qui explique peut-être aussi pourquoi c'est ce qu'elle fait maintenant dans la vie.
Ouais, c'est pour ça qu'elle en fait une affaire personnelle, en fait. Puis ce qui est intéressant dans l'écriture de Daniel Dansereau, c'est pas dans la voie de la facilité. Mon personnage, on apprend à la connaître à travers les cas qu'elle défend. Puis on la comprend davantage parce que elle est extrêmement complexe. Elle a aussi à vivre avec ses propres démons, ses failles à elle. Puis c'est pour ça, je pense qu'à tout prix, les victimes deviennent un petit peu une façon pour elles de se transposer dans leur combat à elles.
Pour jouer ce rôle, êtes-vous allé rencontrer des policiers, des policières, des gens qui vivent ce que vos personnages doivent amener à l'écran?
Absolument. J'ai rencontré Laura Comeau qui est affectée au département de crimes à caractère sexuel. C'était nécessaire. J'aurais pas vu comment défendre ce personnage-là avec toute la crédibilité qu'elle mérite en n'ayant pas sur le terrain fréquenté des gens qui ont ce dialogue-là, ce discours, cette approche-là.
Qu'est-ce que vous avez appris? Je serais curieux.
Toute la méthode d'enquête. La méthode d'enquête, souvent, moi, je voulais pas recopier ce que j'avais vu puis ce que j'avais fréquenté comme série en tant que spectatrice. Leur méthode d'enquête est entièrement dédiée à l'écoute, à l'empathie. Pour converser, pour avoir les confidences, ils se doivent, surtout dans cette thématique-là, d'avoir accès à toute leur intimité, à leur vulnérabilité. Puis c'est comme ça que j'ai approché le personnage aussi. Malgré qu'elle est autoritaire et capable d'être ferme quand c'est le cas, mais que ce soit un suspect, une victime ou un agresseur, ça prend des preuves. Donc, ça prend des confidences. Puis aussi, j'ai aussi été en contact, j'ai vu des interrogatoires. C'est fascinant aussi de voir à quel point il y a un détachement, mais il y a une implication. C'est toujours, il y a toujours une balance entre avoir de la compassion puis avoir aussi le désir de trouver les preuves puis d'avoir ce qu'il faut pour défendre les victimes.
Mais c'est important parce qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent, est-ce que ça vaut la peine, exemple, de porter plainte? Parce que si je porte plainte, je m'embarque dans quoi? On sait qu'il y a des réformes qui s'en viennent, mais quand même, avez-vous senti qu'une victime d'agression sexuelle, de crime sexuel, va trouver une écoute auprès des policiers, des policières qui interviennent?
J'en suis convaincue. En tout cas, moi l'expérience, ils sont surdoués dans cette expertise-là. C'est vraiment, puis c'est peut-être une confidence, mais j'ai pas été de près ou de loin victime ou témoin de ce genre de drame-là. J'ai par contre toute l'écoute et l'empathie de celles qui autour de moi en ont été victimes. Puis, mais j'avais, c'est pas parce que j'en suis détachée que j'ai pas la capacité de m'approcher de ces quêtes-là. Puis j'ai toute l'ambition puis tout l'espoir de dire aux victimes que c'est nécessaire de porter plainte. Puis qui seront sans doute bien accompagnés, je l'espère en tout cas.
Je sais pas quelle sera la suite des choses. On sait que c'est sur la chaîne spécialisée dans quelques jours. Ça va venir plus tard pour le grand écran et tout ça. Mais il me semble que c'est le genre de série avec des personnages où tu as un volet, une saison 2, une saison 3, ou non?
Ben ma productrice, c'est Fabienne Larouche.
Oui. Alors déjà là.
Elle a beaucoup d'ambition, puis je la félicite. Mais en fait, c'est disponible à partir de maintenant sur tout.tv. Bien sûr que puis ça va être sur à Radio-Canada à partir de 2022 aussi. C'est sûr que cette histoire-là peut se déployer en plusieurs saisons, puis je pense que c'est l'objectif aussi. Donc, on l'a abordé comme ça aussi. La saison 1 se termine en se demandant qu'arrivera-t-il?
Ah, donc, il y a une porte ouverte.
Exactement.
Vous avez dit tantôt, le personnage est dans mes valeurs, donc j'ai pas eu à combattre. Est-ce que vous aimez quand ça correspond à votre personnalité ou si vous aimez plus jouer des fois quelque chose qui est vraiment à l'encontre de vos valeurs?
Les deux sont satisfaisants, puis les deux, tu passes par des chemins différents. J'ai défendu un personnage dernièrement dont je voudrais qu'on m'efface, un personnage qui était tellement loin de moi, mais il y avait quelque chose qui j'avais un point de départ, l'amour pour ses enfants, mais il y avait quelque chose d'instinctif dans cette proposition-là. Celle-ci, pour d'autres raisonnables, on est complètement ailleurs. C'est seulement que on est dans un mouvement extrêmement important. Je pense plus qu'on puisse reculer. La portée puis la parole de mon personnage est celle de croire les victimes. Puis je suis ravie de pouvoir défendre ça parce que c'est toujours une façon de s'exprimer qu'on a d'exercer ce métier-là. C'est le privilège en fait exceptionnel de pouvoir défendre des personnages puis d'arriver à travers à ceux-ci de s'exprimer. Puis donc je suis juste contente et ravie parce que ça me fait plaisir de prendre la parole pour les victimes. C'est plus dans ce sens-là. Mais ça
en même temps, si je connecte ça sur l'actualité, bon, ça s'appelle « doute raisonnable
ouais. ».
Gilbert Rozon est acquitté en raison du doute raisonnable. Ouais. Éric Salvaille est acquitté en raison du doute raisonnable. Il y en a d'autres qui sont acquittés, puis il y en a d'autres qui sont condamnés. Comment vous réagissez, même vous n'avez pas connu ça personnellement, mais quand vous voyez ces acquittements? Vous êtes choqué?
C'était des procès extrêmement importants pour la suite des choses, parce qu'ils étaient médiatisés, parce que c'était des personnalités connues. Je pense que tout le monde attendait les verdicts parce que ça pouvait donner l'ouverture et la possibilité et encourager les victimes à témoigner. Dans ces deux cas-là, qu'importe ce que je pense de la situation, on n'est pas là pour ça. Je pense seulement que malheureusement, c'est des situations qui se sont encore une fois passées à huis clos, puis c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre, et il y avait des trous peut-être de la confusion, donc doute raisonnable. Je peux juste dire que l'impact allait être... Il allait avoir des répercussions suite à ce verdict-là. C'est pour ça qu'on les attendait autant. Mais comme la victime de Rozon disait, Annick...
Charrette.
C'est ça, Annick Charrette, elle disait que plus que jamais, elle avait l'énergie de dire aux victimes de dénoncer. C'est positif quand même. Donc, voilà. Ouais.
Mais je pense qu'avec la série, en tout cas, même si ça demeure une fiction, c'est aussi... On entre dans l'univers de ces policiers, policières qui travaillent dans ce domaine-là.
Absolument. Puis c'est aussi de démystifier qu'est-ce qu'une agression sexuelle. On a beaucoup de clichés, mais une agression sexuelle, c'est un acte posé sur quelqu'un de façon non consentante. Et ça, faut l'entendre. Il faut l'entendre que les dénonciations vont d'une petite agression. Il n'y en a pas de petite, là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais que c'est important de les dénoncer. Puis que les choses vont réellement changer, j'y crois.
votre travail comme photographe, comment ça se passe? Vous avez repris la pandémie, ça doit geler un peu quand même.
Je suis en légère sabbatique.
Légère sabbatique.
Mais la pandémie, ça n'a pas trop affecté mon travail, non. Ça s'est fait dans les règles de sécurité, évidemment. Mais c'est plus quand j'ai à défendre un projet comme Doute raisonnable où j'ai besoin de toute mon énergie, ma concentration et que je me dois, par respect pour ce que ça exige, ce projet-là, de m'y consacrer. Je délaisse un peu mes activités de photographe pour pouvoir vraiment être à une seule place à la fois. Mais là, je reprends tranquillement, donc voilà.
Et pourquoi vous aimez ça, la photo? C'est-à-dire que de voir des comédiennes, des actrices performer, mais avoir un métier à côté qui prend autant de place, ou en tout cas qui... potentiellement, c'est pas un hobby, là, c'est pas un loisir. Mmh.
Mais j'ai un revenu, déjà on le sait.
Oui, c'est ça, mais les deux sont importants, c'est-à-dire vous trouvez quoi dans la photo que vous trouvez pas comme actrice ou comédienne?
J'ai pas de carence au niveau de ma profession d'actrice qui me demande d'aller voir ailleurs. C'est un complément pour moi. Puis c'est tellement sain et salutaire que de se retirer, de regarder les autres, d'avoir des projets aussi amenés. Parce que une des caractéristiques du travail d'actrice, c'est d'attendre d'être convoitée. Puis cette caractéristique-là, elle me plaît pas, elle m'a jamais plu. Donc,
vous aimez pas attendre?
Ben... Vous non plus, Paul.
Non.
C'est-à-dire que ça nous amène dans des zones où on doit absolument se forcer à plaire, puis ça devient comme, mon Dieu, un instinct de survie, puis j'avais pas envie de ça, puis la photo, ça a pas été un plan B, ça a réellement été une curiosité, une passion, mais je comble cet espace-là, c'est-à-dire que j'en ai plus de temps d'arrêt. Les projets qui me sont proposés, je suis capable de les lire et de les envisager en fonction de mes ambitions d'actrice. Puis ça a tout changé. Mais mis à part ça, la photo m'amène des connaissances nouvelles, une passion pour la lumière, des rencontres qui auraient peut-être pas lieu sinon, un point de vue aussi sur les sujets, puis aussi la satisfaction d'amener à terme des projets du début à la fin. Ce que je fais pas comme actrice, parce que je crois à la passation des talents. Il y a un auteur, des interprètes, il y a le monteur, il y a le réalisateur. Moi, je participe à l'histoire. Tandis que quand j'ai des projets photos, je suis responsable du début à la fin. Puis ça, c'est sûr que ça m'apporte une grande satisfaction.
Quand on avance en carrière et en âge en même temps, est-ce qu'on se dit les rôles vont être plus durs à trouver quand pour une actrice? Il y a comme une période creuse. Beaucoup d'actrices m'ont dit ça. Mm-hmm. Une espèce de passage à vide qui se tasse un peu puis ça reprend durant peut-être des années plus tard. Êtes-vous inquiète de ça?
Je suis obligée de vous dire non, parce que c'est pas par prétention que je le dis, c'est parce que j'étais installée dans un projet qui aurait pu durer, qui dure encore des années, où je me suis retirée pour des raisons d'éthique et de c'était mon point de vue sur le travail, c'était où est-ce que je voulais aller. Donc j'ai fait des choix en fonction de me retirer d'un projet qui m'assurait cette sécurité d'emploi là. Pour l'instant, j'ai pas à l'envisager, puis je le redis, c'est pas par prétention, c'est que les choses se sont toujours additionnées pour moi. J'ai jamais cumulé de nombreux projets, j'ai jamais été gourmande de quantité, mais j'ai toujours eu l'impression que chacun des projets m'ont appris quelque chose, même les projets qui ont été un petit peu plus difficiles à réaliser. Si c'était à refaire, j'en ferais la même chose. Parce que ce que j'ai gagné en apprentissage, je le sais très bien que je l'applique à mon autre projet. Le projet d'Outre raisonnable, il y a quelque chose qui s'est installé en moi qui est beaucoup plus calme, assumé. Ce personnage-là m'a instruit sur où est-ce que j'en étais. C'est un bon bilan d'Outre raisonnable. C'est un bon bilan pour l'actrice, puis aussi mon désir de travailler en équipe, parce qu'on parle de moi, mais bien sûr, je suis entourée d'acteurs formidables. Puis ça, ben c'est une nécessité maintenant que de savoir s'entourer puis de travailler en équipe.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Tellement gentil de votre part, merci.
Julie Perrault, donc, d'Outre raisonnable. Vous pouvez voir ça sur Ici Tout Extra. Et ce sera l'hiver 2022.
Ouais, voilà.
Voilà.
L'essentiel de Paul Arcan. Les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Parlons des changements climatiques. Je trouve ça formidable parce que quand on parle de changement climatique, bon, pour bien des gens, c'est difficile à visualiser puis quel sera l'impact dans les prochaines années. Grâce à l'intelligence artificielle et par le biais d'un site web, vous allez pouvoir entrer une adresse, un lieu, et donc mesurer un peu l'effet terrain réel, visuellement, de ce que ça peut avoir comme impact. Donc, inondation, augmentation de la chaleur, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Joshua Bengio est avec nous. On sait qu'il est directeur scientifique de MILA, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Monsieur Bengio, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Ben, dites-nous d'abord en quelques mots comment ça fonctionne, puis mon auditeur qui a envie d'essayer ça, de qu'est-ce qu'il doit faire?
Ben, il va sur le site ceclimatnexistepas.com en un seul mot. Et là, il va avoir des informations sur les changements climatiques, mais le plus important, c'est qu'on essaye de transformer quelque chose qui est un peu abstrait, lointain, ça se passe ailleurs, dans le futur, c'est d'autres gens qui sont inondés, en quelque chose qui va nous toucher plus émotionnellement. Parce qu'on a beau savoir rationnellement qu'il y a un problème, la plupart des gens, à cause de biais cognitifs humains naturels, mettent pas ça en priorité. Fait que l'idée, c'est d'avoir un site, ils vont avoir des informations, mais surtout, il y a un côté un peu entertainment, là, dans le sens que vous allez pouvoir entrer une adresse, la vôtre ou quelqu'un que vous connaissez ou votre quartier, puis voir ce que ça aurait comme impact si vous étiez inondé ou il y avait des feux dans votre quartier ou du smog. Et l'idée, c'est que c'est pas un modèle climatique qui est derrière, là. C'est un modèle de transformation d'image. L'intelligence artificielle est utilisée pour prendre l'image, mettons, dans Street View de votre quartier, de votre maison, et la transformer pour la projeter là, de manière le plus réaliste possible dans ce que ça pourrait être. Donc, c'est plus un outil empathique qu'un modèle de ce qui arriverait, parce que ça, on n'a pas les connaissances scientifiques pour faire ces projections-là.
OK, mais ça veut dire, par exemple, je ne sais pas, un auditeur qui habite en Estrie, un secteur un peu plus reculé, boisé, par exemple, il pourrait voir l'impact de feux de forêt dans son coin, puis voir ce genre de transformation-là de son environnement en raison des changements climatiques.
C'est l'objectif. Maintenant, c'est pas non plus de la magie, là. Donc, ça a été entraîné sur des données d'images de maisons, de bâtiments. Je pense pas que ça va fonctionner dans la forêt, mais vous pouvez essayer. Alors, il y a des limites là, à la quantité de données, malheureusement, qu'on a pu obtenir. Parce que en général, les gens, mettons, quand il y a une inondation, ils vont pas prendre une photo avant puis après. Si on avait eu ça, ce serait parfait. Puis si on avait eu beaucoup de ces images-là. Donc, il y a des innovations techniques pas évidentes là, qui ont permis de faire ce site web.
Et l'idée, c'est de dire aux gens, c'est pas juste d'en parler, là, c'est pas juste d'avoir le concept, mais c'est de visualiser, donc sensibiliser par l'image.
Oui, puis une fois qu'on est sensibilisé aussi, le site web vous prend par la main là pour passer à l'action, parce que bon, des sentiments négatifs d'inquiétude, de peur, là, si ça fait juste tourner vers l'intérieur, là, c'est pas productif. L'idée, c'est de transformer ça en action. Donc il y a plein de suggestions là. On dit que c'est autant important l'action individuelle que collective. On vous amène à vers d'autres sites où vous allez trouver de l'information. Finalement, on a besoin de transformer cette énergie négative en quelque chose de qu'on peut chacun faire là, dans notre environnement, puis comme citoyen, dans la démocratie, pour changer les choses le plus vite possible. Parce que si on fait rien, en réalité, on va tous être pénalisés. Ça va nous coûter très, très cher là, ce qui s'en vient si on attend trop.
J'ai une question d'un auditeur qui est très simple. Il se définit comme étant climato-anxieux. Et il dit, est-ce que ce site-là est pour moi? Vous venez un peu d'y répondre, là, mais je vous pose quand même la question.
Ben, c'est sûr que c'est des climato-anxieux qui ont fait le site. Donc, on a besoin de gens qui sont motivés, mais c'est vraiment important, justement, nous, à travers notre action, la recherche qu'on a fait, le site et tout ça, ça nous amène à quand même ressentir quelque chose de positif. C'est quand on passe à l'action, c'est de manière à faire chacun le petit peu qu'on peut faire pour avancer vers un monde meilleur. C'est sûr qu'on se sent, on a des sentiments positifs, fait que j'encourage cette personne à aller sur le site puis aller voir le côté action qui est là.
Merci, M. Benjo. Bonne journée.
Ça m'a fait très plaisir. Au revoir.
Yoshua Benjo, directeur scientifique de MILA, qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Je vous présente ce matin Sandrine Métraux-Boisselier. Elle est avec son mari et ses deux enfants, qui sont des jeunes dans la vingtaine, installés au Québec depuis 2015. Depuis leur arrivée, ils multiplient les démarches pour obtenir leur statut de résident permanent. Ils ont fait, tenez-vous bien, 33 demandes de permis. Ils ont dépensé 30 000 $ et ils sont toujours incapables, donc, de normaliser leur statut. Elle est avec nous ce matin. Madame Boisselier, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, première question toute simple. Pourquoi vous êtes venue avec votre mari vous installer au Québec?
On a toujours aimé le Québec. Et mon mari, en fait, a reçu un courriel. Il était chef d'entreprise en France, en région parisienne. Il a reçu un courriel de démarchage de l'ambassade du Canada à Paris qui recherchait des petits chefs d'entreprise pour assurer la relève au Québec. Donc, il a lu le courriel, il en a pris connaissance et puis il a pris contact avec la cellule de développement économique à l'ambassade du Canada à Paris et c'est là que notre aventure a commencé.
C'est le cas de le dire, c'est toute une aventure. Peut-être nous décrire un peu votre famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que votre mari fait? Puis qu'est-ce que vos enfants font comme études?
Alors, j'ai deux enfants, 20 et 22 ans. Donc, Clément vient de terminer ses études en sciences de l'environnement à l'Université Concordia. Il est arrivé au niveau lycée, donc il a fait un lycée français pour terminer, puis l'université. Ma fille est arrivée au niveau secondaire, elle a choisi le système québécois. Elle a fait son cégep à Brébeuf. Aujourd'hui, elle est à McGill en management finance. Mon conjoint, il était petit chef d'entreprise en France, dans l'adhésif. Il a choisi de rejoindre le Québec pour continuer son entrepreneuriat, reprendre une entreprise. Aujourd'hui, il est à la tête de la broderie Saint-Denis sur Masson et il a pour ambition de reprendre la relève du monsieur qui est actuellement propriétaire et qui veut arrêter son activité. Pour ma part, je suis directrice marketing d'Upper B Solutions Condo depuis le mois de février.
Bon. Et vous payez vos impôts comme les Québécois.
Absolument.
C'est... Bon.
Oui, tout à fait. Puis ma RAMQ à laquelle je n'ai pas eu droit, mais je la payais quand même.
Et il faut que les gens comprennent que le fait de ne pas avoir un statut permanent, par exemple, vous empêche de faire certaines transactions. Donc, vous êtes limité dans ce que vous avez la possibilité de faire.
Oui, absolument. Aujourd'hui, mon conjoint voudrait continuer son entrepreneuriat et en fait, il est bloqué au niveau du financement. La BDC n'autorise pas du financement pour les résidents temporaires.
C'est incroyable.
On est bloqué aussi pour mon fils qui voudrait poursuivre ses études. L'une des raisons pour lesquelles on est arrivé au Québec, c'était aussi pour les enfants qui voulaient faire leurs études au Canada. Et il voudrait continuer en aéronautique. Et malheureusement, l'école, la formation qu'il a trouvée est juste ouverte aux résidents permanents. Donc, on pensait qu'on serait correct en arrivant en 2015 et qu'on aurait notre résidence pour que Clément puisse continuer. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Votre avocat nous dit que c'est un fouillis complet du côté de l'immigration au Canada, que des gens arrivent après 2 ans, la situation est normalisée. Dans votre cas, c'est 2015, ce ne l'est pas. C'est comme un jeu du hasard. Si vous aviez à me décrire un peu, et là, pas dans le détail trop, mais quand même quelques démarches que vous avez faites là, pour que les gens comprennent là, cette espèce de machine bureaucratique avec laquelle vous devez travailler.
Écoutez, on est arrivé vraiment par un programme d'immigration qui était tout était fait, pré-mâché par l'ambassade du Canada à Paris. On a été chouchouté, on a eu nos permis vraiment très vite, pour 3 ans, 3 premières années. Puis on nous a dit, le renouvellement se fera facilement. Puis en fait, le renouvellement a été refusé. Mon mari était entrepreneur, investisseur, donc chef d'entreprise. Et le motif de refus au renouvellement en 2018, c'était, on n'a pas fait d'étude d'impact sur le marché du travail. Donc on n'a pas vérifié que vous prenez le travail d'un Canadien. Mais c'était certain, il n'y avait pas besoin de ça dans notre process d'immigration. C'était une erreur et on n'a pas pu faire appel. Récemment, on a fait une demande de permis de travail pour lui aussi, propriétaire exploitant, avec une catégorie de permis qui s'appelle un permis pont, qui vous permet d'attendre en fait la résidence permanente. Le motif de refus qu'on a reçu quelques jours avant Noël, en fin d'année, c'est ben, on ne vous le donne pas parce qu'on n'est pas sûr que vous quittiez le Canada. Mais on ne veut pas quitter le Canada, c'est en attendant la résidence permanente. On est là, on est installé, on est intégré, nos deux enfants sont ici, on a toute notre vie qui est ici.
Deux choses, Mme Boisselier. D'abord, tenez-nous au courant de vos démarches. Et deuxièmement, alors que le Québec est en opération de grande séduction pour amener des gens de France, de Belgique, pour venir aider dans le réseau de la santé, vous dites quoi à vos compatriotes qui peut-être seraient tentés de venir au Québec?
La vie est formidable ici. Vraiment, nos enfants se sont épanouis. Ils adorent la vie. Il n'est pas question qu'on reparte. Mais prenez vos précautions pour les démarches d'immigration. C'est très, très compliqué.
Merci. Bon courage à vous et à votre famille, Mme Boisselier.
Merci, M. Arcand.
Au revoir.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.